Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, comme chaque deuxième samedi de chaque mois, donc la politique est à l'honneur, le ravis est à demeure sur les 3-8 Radio Grenouille, le ravis c'est le mensuel régional et satirique dans tous les kiosques, et bien entendu également sur internet www.leravis.org. Comme invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Coppola. Jean-Marc Coppola, c'est le patron de la Fédération communiste des Bouches-du-Rhône, également vice-président du Conseil régional. Jean-Marc Coppola, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec moi pour présenter cette émission, Jean-Marc Guéraud, rédacteur en chef du Ravi, Jean-François Pouplein et Rafi Amal. Jean-Marc Guéraud, Michel Guéraud plutôt, va commencer par vous tirer en quelque sorte le portrait.
Camarade. C'est un joli nom, camarade, et qui s'accommode mal d'un vouvoiement. Permets-moi donc, pour ce portrait, de te tutoyer. Tu as été nommé secrétaire de la Fédération des Bouches-du-Rhône du Parti communiste il y a tout juste 10 années, en décembre 1996. Tu avais alors 36 ans, beaucoup moins que les momies observant du haut de leur balcon du temps de la splendeur du grand frère russe le défilé des chars sur la place rouge les 1er mai. Mais n'allons pas trop vite. Un bac d'électrotechnicien en poche. Tu as été embauché à la SNCF à Nice, où tu as appris ton métier de cheminot. Le train du militantisme, tu l'as pris à 23 ans en rejoignant la CGT. Lorsque tu adhères au parti, à 24 ans, Gorbatchev en Russie n'a pas encore entamé sa perestroïka et Georges Marchais en France n'a pas passé la main à Robert Hue. Conducteur de train, tu deviens aussi très vite un conducteur d'hommes. Délégué du personnel, tu t'investis sans compter dans une grande grève de 24 jours en 1987. Est-ce pour te récompenser de ce fait d'armes, tu intègres aussitôt le comité fédéral du PCF des Bouches-du-Rhône. Dans la plus grande tradition du tandem syndicalo-politique PCF-CGT, tu progresses ainsi de front vers les sommets des deux appareils. En 1989, le mur de Berlin s'effondre. Tu es élu secrétaire régional de la CGT Cheminot, puis, 4 ans plus tard, membre du bureau national de la Fédération à Paris. Une autre grande grève, celle de novembre-décembre 1995, joue un rôle d'accélérateur dans ton parcours politique. Aux côtés d'un garçon à l'étrange coupe de cheveux, un certain Bernard Thibault, tu fais à nouveau preuve de ton savoir-faire. Promu à l'issue du conflit secrétaire de la Fédé communiste du 13 et membre du Conseil national du PCF, te voilà donc fin prêt pour décrocher un mandat politique. Ces choses faites en 1998 en devenant conseiller régional dans les bagages de Michel Vauzelle, ton camarade socialiste. Tu arbores désormais à l'hôtel de région le joli titre de vice-président, chargé notamment, bien entendu, des transports. Tu présides beaucoup, camarade, le groupe communiste du Conseil régional, le Centre régional d'éducation populaire et sportive, le Comité régional du tourisme. Tu retrouves parfois des accents prolétariens en refusant par exemple que PACA devienne le bronze cul de l'Europe. Mais pour l'heure, tu dois relever un nouveau défi. Convaincre la nébuleuse des collectifs antilibéraux de se ranger derrière Marie-Georges Buffet. Tous ensemble avec le PCF, du grand art dialectique, non? Qu'est-ce qui se passe là? Ça a l'air particulièrement compliqué, cette affaire des collectifs et de la désignation de ce porte-parole, porte-drapeau national. Ça va se faire là très prochainement, normalement?
Oui, ça c'est en train de se faire d'ailleurs à Paris. Et donc, oui, nous sommes dans une phase, j'allais dire, la plus difficile, celle de la désignation de la candidature, qui, dans le cadre de la République actuelle, c'est-à-dire avec ce que nous rejetons, ce type d'élection présidentielle de la Ve République, mais il faut mettre un nom sur le bulletin de vote. Et il va falloir montrer justement ce que pourrait donner une 6e République, avec un pouvoir moins présidentialiste et surtout une campagne collective polyphonique. Et c'est vrai que c'est une phase difficile, mais on expérimente une nouvelle façon de faire de la politique et une nouvelle façon aussi de travailler avec.
Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes ? Est-ce que c'est le fond ou est-ce que c'est le casting en somme ?
Je pense que c'est le fond. Je pense que
une question de personne.
La ligne de partage, non. La ligne de partage de l'ensemble, de l'ensemble des opinions, ce n'est pas une question de personne. Bien entendu, lorsqu'on vient aux candidatures, y a des discussions sur la personne Marie-Georges Buffet, puisque c'est elle qui est au centre, de grosses discussions, parce qu'elle est secrétaire nationale du Parti communiste, et que certains rejettent, cette proposition, non pas sur ses compétences, sur ses qualités, sur les critères qu'elle remplit, mais sur le fait qu'elle incarne le Parti communiste et que ça pourrait apparaître, en tout cas aux yeux de l'opinion publique, comme un rassemblement autour du Parti communiste que nous n'avons pas voulu faire, ce que nous ne voulons pas faire, parce que si nous avions voulu le faire, on l'aurait fait au mois de mars, lors du congrès du Parti communiste. Cela dit, je pense que il y a des divergences de fond sur l'objectif, l'ambition et la stratégie. C'est-à-dire que je pense que dans les collectifs antilibéraux, tout le monde ne partage pas l'ambition qu'en 2007, on puisse réussir à battre la droite et l'extrême droite, et puis à gagner à gauche, mais une vraie gauche, une gauche sur des bases antilibérales. Certains d'ailleurs le disent très ouvertement dans les collectifs, ils disent bon, en 2007 on ne gagnera pas, arrêtez. Comme si on nous avait dit lors de la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen, mais le non ne gagnera pas, on fait campagne parce que c'est une position de principe, mais on ne gagnera pas. Je crois que si on part avec une ambition comme ça rabaissée, on ne se donne pas les meilleurs moyens. Et c'est là-dessus que, à mon avis, la divergence la plus profonde existe.
Jean-Marc Coppola, le Parti communiste fait quand même, joue à fond son rôle, pousse à fond sa candidate. Coupez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a eu un comité national, enfin une réunion au niveau national, pour dire que les 9 et 10 décembre prochain, donc ce week-end, que les militants et que les fédérations soient derrière Marie-Georges Buffet pour la désignation du candidat des collectifs unitaire. Et il y a aussi un second problème, c'est qu'une pétition est partie la semaine dernière, a été lancée par les collectifs des Bouches-du-Rhône et avec le soutien des grands représentants, donc de M. Bret, de M. Dutoit, de Mme Bouette. Comment vous vivez ça, vous, en tant que secrétaire fédéral ?
D'abord, je crois que ça témoigne, de la vie démocratique à l'intérieur d'un parti, avec des gens qui ont des opinions diverses, fussent-elles, connues, fussent-elles des personnalités, des élus. Il y a des désaccords, il y a des divergences, il y a des opinions différentes, mais c'est le débat qui doit permettre de surmonter cela. Comment on l'a vécu ? On l'a vécu effectivement comme un moment de tension supplémentaire à la tension existante déjà lorsqu'on a ce type de débat sur les candidatures. C'était pas la peine d'en rajouter. Parce que le débat était déjà très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut pas perdre de vue l'ambition que j'ai citée tout à l'heure, le fait qu'on a quand même un programme antilibéral et qu'au moment des candidatures, chacun amène son opinion. Ce qui me gêne dans cette pétition et dans ce préalable, c'est justement de demander à Marie-Georges Buffet de retirer sa candidature à 15 jours de l'échéance de ce processus. Si ça avait été un préalable, on aurait pu l'entendre. Pas de candidature des partis politiques, donc pas de Marie-Georges Buffet. On l'aurait entendu au mois de mai, on aurait pratiqué différemment. On aurait été très certainement dans une autre stratégie. Mais à 15 jours, du processus, dire « pousse, on change les règles du jeu », très franchement, c'est pas très démocratique. Surtout que ce qui animait cela, c'était le fait que Marie-Georges Buffet, effectivement, était plutôt plébiscité par les collectifs. C'est comme si Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius disaient « Ségolène Royal, elle a de fortes chances d'être plébiscitée par les socialistes, qu'elle se retire sa candidature ». Je ne trouve pas ça très loyal, très démocratique. Et d'ailleurs, nous sommes revenus dans une réunion à Aubagne en disant « Attendez, poussez le débat démocratique jusqu'au bout. Poussons le débat démocratique jusqu'au bout. Qui craint la démocratie ?» Alors, on nous a taxé effectivement de faire de forcing dans les collectifs. Écoutez, je suis désolé, mais si 140 000 militants et
de créer même des collectifs parallèles.
Mais même de créer, non pas des collectifs parallèles, d'être à l'initiative de la création de collectifs. Si ces mêmes militants et ces élus qui se sont déployés, qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour que le nom triomphe en 2005. On leur dit, pousse, là, vous jouez pas, c'est-à-dire que vous êtes bon à distribuer des tracts, à remplir des salles, à être dans les manifs, à participer au débat, mais au niveau de la désignation, au niveau de la décision, vous ne jouez plus. Alors, il faudrait savoir, parce que si on avait fait du forcing, très, très sincèrement, numériquement, effectivement, on pouvait avoir des résultats, j'allais dire, tout autres. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans des collectifs, y compris avec une majorité de communistes, c'était parfois d'autres candidatures qui arrivaient en tête, Clémentine Autain, Yves Salès. Donc il faut arrêter les faux procès comme ça. Il ne faut pas craindre, j'allais dire, le débat démocratique. J'ai fait la proposition, je maintiens en tout cas cette proposition. J'ai dit, écoutez, moi, c'est clair, et j'appelle les communistes à être dans cet état d'esprit, de mener une campagne rassemblée, unie, quelle que soit la candidature qui sort. Mais moi, je demande que tout le monde s'engage, je veux dire, sur le même principe. C'est-à-dire que si c'est Marie-Georges Buffet, est-ce que tout le monde va s'engager dans la campagne ? Bon, mais certains l'ont dit, oui. D'autres ont dit, ben non, si c'est Marie-Georges Buffet, on ne fait pas. Donc vous voyez que les procès, et puis en tout cas le sectarisme, il n'est pas toujours du côté où on veut bien le montrer.
Au-delà de la divergence d'opinion, on assiste quasiment à une cacophonie, là, quand même. Puisque vous avez, on l'a cité tout à l'heure, Madame Bouette, présidente du groupe communiste au conseil municipal, le seul député communiste de Marseille, Dutoit, le seul sénateur, Robert Brett, vous-même en tant que président de cette fédération communiste, quel est votre mot
secrétaire,
oui, quelle est votre marge de manœuvre ?
Marge de manœuvre, c'est les communistes, les militants eux-mêmes, et puis l'opinion publique. Vous savez, moi, un des enseignements que je tire du séisme du 21 avril 2002, c'est la cohérence ou l'absence de cohérence. L'absence de cohérence qui a fait que, entre ce que nous incarnions, entre nos ambitions, entre notre objectif de changer la société, et ce que nous avons fait, eh bien, nous avons été incohérents et nous l'avons payé cher. Plus cher d'ailleurs que d'autres formations de gauche en 2002. Et aujourd'hui, il faut avoir de la cohérence. Moi, si des camarades ont des opinions diverses, c'est leur droit le plus strict. Que je suis désolé, quand on appelle par contre à voter José Bové au premier tour et Ségolène Royal au second tour, je pense qu'on est un peu moins cohérent par rapport à l'ambition et par rapport à la stratégie communiste que nous avons adoptée. Après, effectivement, il y a une diversité d'opinions, elles s'expriment. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Frédéric Dutoit soit si éloigné d'ailleurs de la position que nous avons. Robert Brett ou Annick Bouette, très certainement, un petit peu moins Frédéric Dutoit. Mais ça fait partie du débat, et donc nous le surmontons. Et surtout, je pense qu'il y a un élément aussi que je donne souvent, c'est que, vous savez, les collectifs, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est pas la première fois qu'on crée des espaces citoyens, parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est essayer d'impliquer les citoyens dans des débats démocratiques, dans la politique. Et à chaque fois que nous avons essayé de le faire, il y a eu des initiatives, etc. Aujourd'hui, les collectifs antilibéraux, je dis très tranquillement, ils ne représentent pas l'ensemble des forces antilibérales de ce pays. Si je prends les salariés et les travailleurs, n'y sont pas dans ces collectifs. Et moi, je participe à des initiatives où il n'y a pas de communistes et où, la référence de Marie-Georges Buffet vient parce qu'on la connaît, on l'a connue en tant que ministre, etc. etc. Donc, il n'y a pas que les collectifs aussi qui parlent de cette candidature. Donc, voilà, il faut aussi vivre, avec les gens dans les cités, dans les quartiers, avec les travailleurs, avec les salariés. Et je le dis très tranquillement, les collectifs, ils méritent d'être élargis. Ça crée déjà une dynamique, ça donne beaucoup d'espoir, mais ils ne représentent pas tout le courant antilibéral.
Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression « battre la droite ». Oui. Et quand vous parliez de divergence peut-être sur le fond, mais là, il y a quand même une interpellation, il y a peut-être une divergence, et à savoir la question de l'alliance du second tour et de la position du Parti communiste dans la logique d'un gouvernement de gauche plurielle ou d'un nom différent. Est-ce que là, il y a une ligne de fracture ? Est-ce que là, clairement, le PC aujourd'hui est à nouveau prêt à revenir aux affaires ? Est-ce que c'est pas ça la ligne de fracture, entre autres ?
Alors, je vais vous expliquer. Vous avez bien fait de poser cette question parce que là aussi est entretenu, j'allais dire, un flou, alors que c'est d'une clarté vraiment. On l'a dit, on l'a écrit, et je le redis devant vous à cette radio. En politique, Et c'est la raison, vous citiez tout à l'heure mon parcours, vous savez, quand j'étais syndicaliste, j'étais aussi très critique vis-à-vis de la politique et vis-à-vis y compris du Parti communiste. J'avais deux solutions, ou je continuais dans le syndicalisme ou je faisais plus de politique. Vous voyez donc mon parcours, sans ambition, parce que très franchement, vous savez, dans mon métier, j'ai la retraite à 50 ans, j'ai plein d'autres projets dans ma vie, la politique prend beaucoup de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Donc, à un moment donné, en politique, ou vous faites de la politique fiction, ou vous mettez les mains dans le cambouis. Et nous, c'est clair. Pour changer la vie des gens, il faut être aussi aux responsabilités, avec la conception que nous avons aujourd'hui, que nous avions, mais qu'aujourd'hui nous affirmons beaucoup plus fortement, de restituer le pouvoir aux citoyens. C'est clair, net et précis. Cela dit, ça ne veut pas dire que nous irions au gouvernement, nous irions au gouvernement en 2007, comme ça, n'importe quelle condition. Et là, nous sommes clairs aussi. Quand j'entends Olivier Besancenot dire « vous voulez reconstruire la gauche plurielle », etc., c'est pas question de recommencer ce qui a échoué. Trois fois, nous sommes allés au gouvernement avec le Parti Socialiste, mais sur un contenu de politique sociale libérale, vous les appellerez
comme
vous
voulez. Et c'est mal parti avec Ségolène Royal.
Et c'est mal parti avec Ségolène Royal, effectivement. Oui. Et donc, nous, c'est clair, nous ne participerons pas à un gouvernement qui mène une politique sociale libérale. Mais je le répète, nous voulons que la gauche gagne. Parce que quand on dit battre la droite, il faut bien qu'il y ait une gauche qui soit majoritaire. On est d'accord.
Donc Ségolène Royal.
Non.
Il y a une position qui est quand même un petit peu ambiguë.
Non, elle n'est pas ambiguë. Je vais vous expliquer encore une fois, puisque je reprends les propos, puisque en fait ça vient beaucoup de la LCR. Il faut le dire très tranquillement. Oui. Et les lignes de fracture sont là. Quand la LCR dit « nous cherchons à convertir », nous chercherions à convertir les dirigeants socialistes. Est-ce que c'est ce que nous avons fait lors de la campagne du référendum? Puisque on voit bien, le oui était porté par la droite, par le Parti socialiste, par les Verts, par les médias, la plupart des médias, excusez-moi, portaient ce oui. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché à débattre et à surtout à convaincre et à rassembler autour du non les hommes et les femmes, et surtout les hommes et les femmes de gauche, les électrices et les électeurs. Nous voulons faire la même chose, c'est-à-dire que même si Ségolène Royal aujourd'hui est désignée par le Parti socialiste, eh bien, je sais qu'il y a des électrices et des électeurs socialistes qui ne sont pas prêts à voter Ségolène Royal, parce que la politique, et ça sera de plus en plus clair à mon avis dans les débats d'idées qui viendront d'ici le mois d'avril, eh bien, ne sont pas porteurs de rupture avec justement les politiques libérales, et surtout de réponse aux besoins, aux préoccupations. Donc c'est clair, net et précis, nous voulons battre la droite, mais nous ne participerons pas à un gouvernement qui ne porte pas justement des politiques anti-libérales.
Donc pour reprendre votre pensée, au deuxième tour vous voterez, vous appelleriez à voter socialiste, mais vous ne participeriez pas à un gouvernement socialiste, dirigé par les socialistes en tout cas.
Alors d'abord, j'insiste là-dessus parce que je pense que il y en a assez de la bipolarisation, de l'hypermédiatisation, de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy, qui fait qu'il n'y a pas de premier tour. Donc, vous savez, au second tour, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Et donc, étudions cette hypothèse-là. S'il y a une hypothèse, droite-gauche, avec y compris Ségolène Royal, mais moi, je voudrais savoir ce que les forces antilibérales pèsent là-dedans, au premier tour. Mais de toute façon, nous ferons tout. Oui, c'est clair. Nous ne jouerons pas avec ça. Nous ferons tout pour que la droite et l'extrême droite soient battues. Est-ce à dire que nous participerons à un gouvernement? Non, je le dis très tranquillement. Très tranquillement sur la base, parce que même si le débat éclairera un peu plus, il est clair que Ségolène Royal porte une politique qui a déjà été, j'allais dire, confirmée dans les différents congrès du Parti Socialiste, le dernier, le congrès du Mans. Donc c'est clair que ce n'est pas une politique qui nous convient. Nous ne participerons pas à ce type de gouvernement. Mais nous ne permettrons pas que Sarkozy ou quelqu'un d'autre, parce que bon, on ne sait pas encore à droite comment ça va se passer, même si Sarkozy, effectivement, le vent en poupe, on fera tout pour que la droite ou l'extrême droite soit battue.
Donc aujourd'hui, Jean-Marc Coppola, dans l'éventualité d'un gouvernement Ségolène Royal, les communistes n'y sont pas.
Non.
Et vous parliez.
Il y a des législatives en plus derrière.
Vous parliez tout à l'heure, avant d'arriver aux législatives, de compter un petit peu les voix à la gauche du PS. Donc, quand on regarde les sondages, Marie-Georges Buffet, sur son nom, enregistre quelque chose qui tourne autour de 2%, donc un score quand même très 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 faible, et on n'a pas l'impression, donc ce que vous disiez, que, enfin, en tout cas qu'elle est capable de rassembler. Et d'autre part, je voulais juste préciser que dans cette construction d'un rassemblement à la gauche toujours du Parti Socialiste, hein, qui peut faire penser à l'expérience allemande avec le Linkspartei, donc le parti de gauche. On a la candidature hors parti a été quand même réclamée depuis pas mal de temps. Donc Olivier Besancenot, c'était à d'autres problèmes avec les collectifs, mais c'était... lui avait proposé de toute façon de retirer sa candidature. Marie-Georges Buffet, elle l'a maintenue. On a quand même l'impression que les communistes cherchent à gagner un petit peu ces collectifs.
Non, là aussi je veux clarifier. La Ligue communiste révolutionnaire avec Olivier Besancenot n'ont jamais voulu, d'ailleurs ils n'ont pas signé, le texte créant les collectifs antilibéraux. Ils n'ont pas participé. Ils ont refusé de participer aux collectifs antilibéraux. Il faut que ce soit clair, ça. Au mois de mai, quand la décision a été prise, ils ont refusé. Nous avons été gentils, nous avons accepté que les militants de la LCR participent aux collectifs. Mais ils n'ont pas signé, c'est-à-dire qu'ils ont refusé. Et en plus, Olivier Besancenot, j'allais dire, a fait son premier meeting à la Mutualité la semaine dernière, disant très clairement, de toute façon, nous irons tout seuls, nous ne participerons pas à cela. S'il veut participer aux collectifs antilibéraux, mais qu'il fasse le premier pas. Pourquoi demander toujours aux communistes de renoncer et donc à Marie-Georges Buffet de renoncer à la candidature de rassemblement, alors même qu'il pourrait lui-même faire un acte, c'est-à-dire de venir déjà dans les collectifs. Il refuse de le faire. Et autre chose, nous ne cherchons pas à construire une petite gauche, ça serait une petite ambition, à gauche du Parti Socialiste. Nous voulons que la gauche réussisse. La gauche dans ce pays, justement, a une histoire, a des valeurs, etc. Et le Parti Socialiste s'est éloigné de ces valeurs, et donc nous voulons discuter avec les hommes et les femmes de gauche, les hommes et les femmes qui ont besoin, j'allais dire, d'une autre perspective que ce qui se passe sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur les droits. Et donc, sur toutes ces questions-là, il faut bien venir sur les questions de contenu pour voir les lignes de fracture. Mais ce n'est pas construire une petite gauche à gauche du Parti
Justement,
Socialiste.
Justement, sur ce sujet-là, enfin, un PC à 2-3%, enfin, Robert Rue 3% aux dernières présidentielles.
3,37.
Sous des petites formations comme la LCR ou Lutte ouvrière. Enfin, comment vous expliquez ce résultat très médiocre pour un parti qui a cette tradition, quelle conclusion vous tirez de ça?
Mais nous l'avons analysé, vous savez, nous avons passé, je pense sans prétention que nous sommes une des formations politiques qui avons le plus analysé justement ce qui s'est passé, parce que nous l'avons chèrement payé. J'ai parlé tout à l'heure d'incohérence, et mais effectivement, tous les échecs du passé auxquels nous avons participé, bien entendu, nous collent à la peau encore un certain nombre de choses, y compris en dehors même de notre pays, les pays de l'Est et d'autres questions. Nous l'avons analysé, tout cela. Est-ce que c'est écrit dans le marbre, les 3,37%? Moi, je veux bien, on pourrait longuement parler des sondages, qui sont des images à l'instant T. Alors qu'on ne parle jamais de Marie-Georges Buffet, on la sonde à un peu plus de 2%. Hein, vous savez, je ne veux pas me battre sur les chiffres, même si on disait 4, que ça ne me convient pas du tout. Mais je ne vais pas parler des sondages, parce que sinon, je vous renverrai à ce moment-là à tous les sondages qui donnaient le oui gagnant sur le traité constitutionnel européen. Donc les choses ne sont pas figées. Il y a eu du travail de fait depuis 2002. Je vais vous dire une des choses aussi qui nous a, considérablement affaibli. C'est notre rapport au monde du travail. Et depuis 2002, justement, nous avons retravaillé notre rapport au monde du travail.
Alors justement, ce rapport au monde du travail, il y a un mot...
Il y a eu des luttes, justement.
Jean-Marc Coppola, il y a un mot...
C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la même situation.
Il y a un mot qu'on a beaucoup évoqué après 2002, c'était radicalité. Et le Parti communiste, justement, manquait, selon les sondages, selon les uns et les autres, de radicalité vis-à-vis de ce monde du travail. Vous l'avez retrouvé, cette radicalité, parce qu'on se souvient tous, et on ne va pas faire appel à la mémoire durant toute l'émission, mais on se souvient tous de Michelin et de la participation communiste au gouvernement Chospin.
Et les critiques que nous avions émises quand Lionel Jospin disait justement que nous ne pouvions que la politique ne pouvait rien faire.
Des critiques de l'ordre du verbal, hein. Il n'y a pas eu de démission, il y a eu collaboration jusqu'au bout du gouvernement Jospin.
Oui, mais c'est justement, nous avons tiré les enseignements de tout cela. Oui, nous avons tiré les enseignements.
Et donc
de tout
aujourd'hui,
cela.
Vous avez retrouvé une certaine radicalité?
Je pense, oui, quand on voit notre rapport aux salariés, aux travailleurs, oui, je pense, pour une grande part.
Et je le disais tout à l'heure, ce sont en même temps des hommes et des femmes qu'on ne retrouve pas forcément dans les collectifs, non pas qu'ils ne veulent pas y aller, mais c'est parce qu'ils sont aussi dans leur lutte, dans leurs activités syndicales, sociales, etc. Mais quand je discute avec eux, et croyez-moi, je passe beaucoup de temps avec eux, que ce soit d'abord avec ma famille cheminote, mais aussi avec les marins, avec les postiers et d'autres salariés, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus en phase que ce que nous étions effectivement avant 2002. Et ça, on le doit aussi, j'allais dire, à Marie-Georges Buffet, parce qu'il fallait relever le flambeau, il faut avoir le courage de relever le flambeau en 2002 à 3,37%, où il n'y avait aucune garantie d'avenir pour le Parti communiste. Il n'y en a pas plus aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas écrit dans le marbre. Mais où nous essayons, j'allais dire, de non seulement de continuer, parce que je ne veux pas jeter le bébé l'eau sale, dans la mutation, il y a des choses aussi intéressantes, de nous débarrasser d'un certain nombre de j'allais dire, de choses qui nous collaient la peau, qui ne correspondait pas forcément à ce que pouvaient attendre justement ceux qui pouvaient se retrouver dans le Parti communiste ou à travers ses propositions. Et donc, nous avons recollé à un certain nombre, j'allais dire, de catégories sociales, sans nous départir de ceux que nous avions gagnés aussi. Donc mais pour l'essentiel, nous avions quand même creusé un certain fossé avec le monde du travail. Et moi, je suis très content de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de travail.
Vous parliez du 29 mai, donc du référendum, de la campagne référendaire. Ça avait été la victoire du non a été possible grâce au rassemblement. On a plutôt l'impression qu'on est dans la désunion, là, que le rassemblement va être difficile à faire, qu'on va avoir qu'il va y avoir encore un éclatement sur les petits partis de gauche. Et donc, peut-être, en tout cas c'est un risque, un vote utile vers le PS. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est une crainte au sein du Parti communiste ?
Écoutez, si nous avons impulsé et si nous avons été d'accord sur la base des collectifs du non, décider d'adopter ce processus, cette stratégie de rassemblement, c'est bien parce qu'effectivement, nous tirions l'enseignement que la division, ce n'était pas le seul élément. Hein, quand j'entends dire un certain nombre de dirigeants socialistes, c'est la multiplication des candidats qui a conduit à l'échec de la gauche en 2002, je ne partage pas cette opinion. Mais ce n'est pas en tout cas l'élément principal. L'élément principal de l'échec, c'est le manque de courage de mener des politiques en rupture avec les politiques libérales. Ça, c'est le premier élément. Mais c'est vrai qu'un autre élément, c'est cette multiplication de candidats en rajoute justement à la division et conduit effectivement au vote utile. Les gens, d'ailleurs, que l'on rencontre, enfin, qui sont, j'allais dire, un petit peu politisés ou qui s'intéressent en tout cas à ces questions-là, dans le camp antilibéral, le disent très fortement. Surtout, ne partez pas divisés, ne partons pas divisés. Donc c'est vrai que si nous n'arrivons pas à avoir un contrat qui est bien sur l'ambition, le rassemblement, le programme antilibéral et puis une candidature de rassemblement, effectivement, je pense que c'est la voie royale à cette alternance que l'on connaît, cette alternance à l'américaine. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que l'on veut faire. Et donc, nous, on a assez d'esprit de responsabilité pour empêcher cela. Est-ce que tout le monde, je veux dire, mesure bien...
Il y a eu quand même cette tentative d'hégémonie, en quelque sorte, ou en tout cas, cette envie pour le Parti communiste de jouer le rôle qu'a joué le Parti socialiste vis-à-vis du Parti communiste, d'être un petit peu le grand frère vis-à-vis de la LCR, de rassembler un petit peu tout ce qu'on appelle les antilibéraux.
Non, c'est caricatural, mais tout le monde le reconnaît dans les collectifs antilibéraux. Ils le disent d'ailleurs très tranquillement. Vous êtes les plus nombreux, etc. On a marqué notre empreinte, mais on va quand même pas, j'allais dire, s'effacer, alors que on peut apporter en réflexion, débat sur le programme antilibéral un certain nombre de choses. Mais c'est sain. Alors donc tout le monde nous encense et y compris même en sens Marie-Georges Buffet, et même ceux qui demandent le retrait de sa candidature. Et puis, au moment de décider, oui, vous êtes tous beaux, gentils, etc., excellents, parfaits, mais... retirez-vous au moment de la candidature. Je pense qu'il faut qu'il y ait le débat, pointe à la ligne.
Concernant les idées et le fond, en 81 par exemple, on parlait de nationalisation. Oui. Est-ce que cette idée est toujours... On se souvient que le gouvernement Jospin est un de ceux qui a le plus privatisé ces dernières années en France. Est-ce qu'aujourd'hui des idées qui incarnaient la rupture, comme celle de nationalisation vous les portez ou pas ? Oui. Qu'est-ce que c'est la valeur ajoutée de ces...
Oui, il y a un programme, il y a un programme qui a été établi et qui n'est pas terminé, puisque ensuite il faut y compris le confronter, j'allais dire, au débat avec les citoyennes et les citoyens. Mais ce programme, j'allais dire, il a bénéficié de 8 mois de discussions dans les collectifs, etc. Et il y a effectivement sur les questions économiques, sur les questions d'emploi, sur les questions sociales, un certain nombre de retours. C'est clair que quand on voit des privatisations comme EDF, France Télécom, tout ça, oui, nous souhaitons un retour, j'allais dire.
Peut-être plus en position défensive, c'est-à-dire stopper les privatisations, revenir.
En gros, est-ce que vous avez
la proposition,
forte,
par exemple, qui est faite, alors le Conseil constitutionnel nous donne un coup de main, mais l'idée de faire un pôle public EDF et une fusion EDF-GDF, mais public, je veux dire, si c'est pas quelque chose, j'allais dire, de courageux, de radical, je me demande ce que c'est.
La Grande Tchatche, le Ravi, c'est le mensuel satirique et régional dans tous les cas. Ce qui est bien entendu sur Internet, c'est le www.leravi.org. Aujourd'hui, le Ravi reçoit Jean-Marc Coppola. J'avais dit tout à l'heure patron, c'est un mot avec lequel vous êtes fâché, justement. Et on évoque les grandes idées que vous avez pour ces prochaines échéances électorales, en l'occurrence les présidentielles. Michel Guéroux.
Autre sujet, la sécurité qui a tendance à envahir le débat à l'occasion de ces présidentielles et puis des législatives qui suivent. Mais on a eu l'impression que parfois le PC aussi était un petit peu gêné ou n'osait pas tenir un discours vraiment différent sur ces questions-là. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Pas du tout. Je crois que c'est une question qui, j'allais dire, qui est malheureusement le quotidien de tous les jours. Et dans d'ailleurs l'insécurité, il n'y a pas que les agressions. L'insécurité, c'est l'insécurité sociale d'abord. C'est l'insécurité de vie. Quand on ne sait pas justement de quoi sera fait le lendemain, avec des petits boulots, des boulots précaires, etc., ça fait partie aussi de la sécurité. On a tendance à focaliser l'insécurité uniquement les agressions, les actes d'incivilité et les délits, tout ce que l'on voit. Et là-dessus, effectivement, eh bien, il faudrait à la fois mettre des moyens pour beaucoup plus de prévention, pour beaucoup plus d'éducation, y compris sur des questions de sécurité avec la police, et sur des moyens pour la justice aussi, pour qu'elle soit beaucoup plus rapide, et puis surtout qu'elle soit vraiment juste, parce qu'il y a un grand sentiment d'injustice dans notre pays. Et puis il y a, je le répète, toute cette insécurité sociale que l'on ne parle peu. On peut faire justement, j'allais dire, le bilan de ce qui se passe, puisque la sécurité a été au cœur, j'allais dire, de la campagne des présidentielles de 2002. On allait voir ce que l'on allait voir, et Sarkozy, justement, par à grands coups de communication, nous faisait des démonstrations sur ce qui allait être, j'allais dire, l'efficacité de son action gouvernementale. Eh bien, le bilan, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, au niveau des crimes et des délits, c'est encore pire qu'en 2002. Et lorsque l'on voit la situation dans un certain nombre de cités, de quartiers, c'est bien aussi parce que la police de proximité a disparu. C'est bien aussi parce que des moyens donnés par l'État aux associations, à la prévention, à l'éducation, ont disparu. Vous le citiez tout à l'heure, vous êtes beaucoup président. Mais vous savez, ce n'est pas président pour des titres sur la carte de visite. C'est essayer d'agir pour être utile. Et quand on est président, par exemple, du centre d'éducation populaire et sportive, beaucoup disent éducation physique, le CREPS, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une partie formation des sportifs de haut niveau, et il y a une partie éducation populaire. Et bien, au niveau de l'État, depuis 2002, le budget n'a cessé de baisser. Et donc, je pense que ce n'est pas de cette façon-là, effectivement, qu'on va redonner des repères, qu'on va redonner, j'allais dire, de l'éducation, et puis surtout donner, j'allais dire, des moyens aux jeunes, et sans stigmatiser que la sécurité, ça serait que la jeunesse, mais compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, y compris à Marseille, dont on disait que Marseille était à l'abri de tout, mais à force de lancer des défis médiatiques comme le fait Sarkozy, comme le fait ce gouvernement, effectivement, on a des jeunes qui relèvent ce défi. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Alors, donc nous ne craignons pas, et pas d'angélisme en même temps là-dessus. Parce que je pense qu'il y a un moment où le Parti communiste a peut-être trop excusé
au nom de cette société capitaliste, excuser un certain nombre de comportements. Aujourd'hui, pas d'angélisme. Bien sûr que la société capitaliste qui domine, qui broie, eh bien, crée des inégalités, des injustices, entraîne ce type de comportements délictueux, etc. Mais en même temps, quand il y a des comportements délictueux, eh bien, il faut aussi, j'allais dire, bon, d'abord il y a la prévention, mais il faut aussi, je pense, agir dans la sanction. Mais pas dans la sanction avec le projet de loi, par exemple, qui concerne les mineurs aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que va être le résultat ? Le résultat, c'est qu'on va envoyer des mineurs en prison et ça ne réglera rien. On va en faire des futurs grands délinquants. Donc, ce n'est pas les solutions. J'allais dire, à chaque fois, d'ailleurs, ils pointent bien, ils mettent bien le doigt sur des vrais problèmes, mais les solutions sont des solutions à courte vue, démagogiques et populistes. Et nous voulons travailler sur la longueur.
Les solutions, alors, sont lesquelles pour le Parti communiste ? Ça va être réinjecter de l'argent dans les associations, créer des emplois d'éducateurs, c'est...
J'allais dire, si il devait y avoir une première mesure prioritaire, c'est effectivement apporter des moyens, mais importants, dans l'éducation.
Alors, attendez, avec quels moyens ? Parce que là, on est dans l'ordre de l'incantatoire.
Oui.
Concrètement, avec quels moyens vous allez apporter plus d'argent aux associations et à tout le monde ?
On ne serait pas la quatrième puissance du monde, je vous dirais, effectivement, c'est un sacré casse-tête. Mais aujourd'hui, j'allais dire, vous ouvrez n'importe quel magazine d'économie et on voit les milliards de profits, on voit les sommes colossales de résultats de la spéculation,
oui, non, mais
de délocalisation.
Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce qu'on le voit, tout ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement ?
Mais justement, changer d'abord la fiscalité. La fiscalité dans ce pays est une fiscalité injuste. Et depuis 2002, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la fiscalité a favorisé les plus riches, a favorisé les entreprises, y compris qui avaient peu de main d'œuvre et qui spéculaient beaucoup plus, et donc a défavorisé ceux qui vivent de leur travail. Eh bien, une grande réforme fiscale qui fasse que, au lieu de baisser l'impôt sur le revenu, qui est somme toute la plus juste des fiscalités, en augmentant les fiscalités locales, et je suis bien placé en tant qu'élu régional, eh bien déjà changer cela et avoir une fiscalité qui soit plus juste. C'est-à-dire qu'effectivement, on paye des impôts qui serviront, j'allais dire, à l'intérêt général, au service public, à tout ce qui est commun, parce que les gens veulent payer moins d'impôts, mais ils ont raison dans un sens, si c'est injuste, mais ils veulent aussi des hôpitaux, des écoles, des crèches, etc. etc. Donc il faut une autre fiscalité qui permettent de mettre dans la sphère publique un certain nombre de moyens qui existent. Ces moyens-là, quand je parle des profits d'entreprise, c'est le fruit, c'est le résultat du travail des salariés, des travailleurs, etc. Et donc réinjecter ça pour que cet argent bénéficie à l'intérêt général.
D'accord, nouvelle donne, Jean-Marc Coppola. Aujourd'hui, une entreprise, quand on veut trop la taxer, elle délocalise. Qu'est-ce que vous faites ?
Ah bien, vous savez, ces entreprises en plus qui délocalisent, parce qu'on cite celle-ci, mais il y a des entreprises aussi qui restent quand même, une majorité. Mais celles qui délocalisent sont vraiment celles qui, en général, butinent. Une fois elles sont en France, une fois elles sont dans un endroit en France, une fois elles sont dans un autre endroit en France.
Donc vous légiférez.
Elles ont bénéficié, oui, les lois servent aussi à ça, à encadrer. Et elles, à chaque fois, de toute façon, elles bénéficient d'argent public. Vous savez qu'on était à l'origine, en 2002, parce que je le répète quand même, nous n'avons pas, j'allais dire, fait que des erreurs entre 1997 et 2002. Nous étions à l'origine de la loi sur le contrôle de l'utilisation des fonds publics. La première mesure que prend le gouvernement précédent, de droite, c'est justement de supprimer, d'abroger cette loi. Eh bien, il a fallu, là où nous étions effectivement, en gestion, comme par exemple au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons remis en place une commission de contrôle d'utilisation des fonds publics. C'est-à-dire que lorsque de l'argent public est donné à une entreprise, enfin donné ou avancé à une entreprise, elle doit servir à la création d'emplois. Et quand une entreprise délocalise, comme c'est le cas de Diebold, etc., cette commission, eh bien justement, va faire rembourser à Diebold l'argent public dont elle a bénéficié.
Elle va tenter de lui faire rembourser.
Tenter, oui, bien sûr.
Parce qu'on sait que dans la réalité, ça va être extrêmement compliqué.
Mais oui, mais je crois que c'est cela aussi, c'est ces lois et c'est ces mesures qui permettent de faire n'importe quoi.
Oui, justement, vous êtes vice-président du Conseil régional.
Je ne suis plus vice-président.
Vous êtes plus vice-président.
Je l'étais au précédent mandat et je ne le suis plus. Vous voyez que
bon,
je ne cherche pas les titres.
On n'a pas mis à jour notre série de titres. Est-ce que là, vous êtes minoritaire, groupe minoritaire, dans une institution tout à fait honorable, mais dont on sait très bien qu'elle n'a pas forcément tous les moyens pour mettre en œuvre sa politique. Que peut faire un élu communiste, que peut faire un groupe communiste dans une institution pareille? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décevoir les électeurs en promettant une série d'actions et finalement en ayant très peu de moyens pour les réaliser?
Je crois d'abord qu'il faut relativiser votre propos, parce que effectivement, si vous voulez faire à la région ce que fait l'État, etc., c'est hors de question. On a des compétences, on a des prérogatives. Je pense que dans le cadre de ces compétences et de ces prérogatives, c'est-à-dire les lycées, les centres d'apprentissage, la formation et les transports collectifs de voyageurs, nous faisons bien, je pense, notre travail. Mais je le dis avec des règles aussi qui mériteraient d'autres moyens, avec les règles actuelles de la fiscalité. Nous ne faisons pas ça, puisque nous avons décidé de maintenir, et c'est l'empreinte justement d'une majorité de gauche, des politiques volontaristes. Les politiques volontaristes sont sur la culture, c'est des choses identifiantes, cela. Toutes les majorités n'agissent pas et ne soutiennent pas la culture. Nous faisons sur la solidarité, la santé, la prévention, sur le sport. Et ces politiques volontaristes, eh bien nous avons des budgets conséquents, nous ne sommes pas obligés de les faire, c'est pour ça qu'on les appelle volontaristes, et nous les faisons. Eh bien un groupe communiste, oui, vous dites un groupe minoritaire, mais je veux bien qu'on soit un groupe minoritaire, mais enfin, j'allais dire, avec 19 élus communistes sur 73 que compose la majorité, qui compose la majorité, je suis désolé, sans le groupe communiste, j'allais dire, il n'y a pas de majorité. Donc, notre action, elle est justement dans le cadre des délégations que nous avons, mais dans le cadre aussi des débats politiques et des choix politiques de cette région, nous pesons fortement, au-delà des 4 vice-présidents que nous avons sur l'agriculture, sur la culture, sur les transports, ou sur la solidarité, la santé, la prévention. Nous agissons, et nous agissons comment? Nous agissons surtout dans une région où, quand on voit quand même les sensibilités très fortes, on sait très bien que la gauche n'est pas forcément majoritaire. Nous agissons parce que nous restituons ce pouvoir aux citoyens, alors par l'intermédiaire d'organisations, d'associations, etc. Mais nous avons ouvert un certain nombre d'espaces de démocratie participative. Tout le monde a à la bouche la démocratie participative. Nous l'avons mis en œuvre depuis 1998 avec les comités de ligne sur les transports, avec un certain nombre d'espaces comme ça. J'ai animé pendant 5 ans le Conseil régional des jeunes que nous avons mis en place, qui est, j'allais dire, un apprentissage de la prise de responsabilité de jeunes lycéens et apprentis. Oui, je pense que nous sommes utiles, mais je le répète, nous n'avons pas vocation à nous substituer à la politique du gouvernement, de l'État. Nous jouons notre rôle dans le cadre d'un pays qui est décentralisé et dont on pourrait beaucoup débattre sur la décentralisation telle qu'elle est aujourd'hui.
Vous parliez de culture, justement, ça ne se passe pas très bien. Il y a la question de l'intermittence qui est loin d'être résolue. Il y a la question des compagnies régionales en particulier qui se plaignent d'une politique poussant un certain nombre d'entre elles dans le fossé. Mais quelle est votre position là-dessus?
Justement, c'est tout ce qui ne va pas, je dirais de manière caricaturale, c'est justement la politique du gouvernement. Et croyez-moi que dans les acteurs de culture, ils disent heureusement qu'il y a la région. Heureusement qu'il y a la région, avec de faibles moyens, mais en même temps des initiatives politiques que nous prenons. Et là, je sais que de ce point de vue, je m'avance, mais en toute modestie aussi, avec les moyens que nous avons. Nous soutenons, oui, la politique culturelle dans cette région, et beaucoup de compagnies et beaucoup d'acteurs nous remercient.
Alors, on parlait tout à l'heure du score pas très glorieux, des fameux 3% et quelques de Robert Rue. On revient là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui fait quand même la différence d'une organisation comme le PCF et de vos concurrents trotskistes, par exemple, c'est vos élus locaux. On prend le 13, 2 députés, 1 sénateur, 8 conseillers généraux, 13 maires, Arles, Martigues, Aubagne, Gardanne, Port-de-Bouc, etc. En même temps, justement, c'est-à-dire qu'il se joue quelque chose d'important à ce niveau-là, et c'est ce qui fait votre force. Il y a des scrutins qui sont devant nous, législatifs, municipales, derrière. Vous jouez gros dans cette affaire. Et est-ce que vous pouvez jouer sans votre partenaire socialiste en particulier? Est-ce que vous n'êtes pas dans un jeu du chat et de la souris? Est-ce que vous n'êtes pas tenu par ce partenariat, par des jeux d'alliance, sans quoi vous risquez de prendre un nouveau revers, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, mais je le dis, je le répète. Notre stratégie n'est pas de dire plus rien avec le Parti socialiste. La question de la politique, c'est quoi? C'est que de jouer surtout la carte de la transparence. y compris dans la question des alliances. Nous disons simplement, d'abord, les accords de sommet, les accords loin des électrices et des électeurs, c'est fini. C'est-à-dire que, on va prendre un cas, il est d'actualité Istres, si vous le voulez bien, mais avec plaisir, voilà. Nous ne disons pas par principe, c'est fini, plus rien avec le Parti Socialiste. Si c'était cela, on quitterait l'exécutif à la région, au Conseil Général et dans les municipalités.
Alors vous dites quoi sur le cas d'Istres ?
Alors attendez, je vais venir sur le cas d'Istres. Nous disons, dans la transparence, oui, il peut y avoir, il doit y avoir des accords d'union et je ne mélange pas, y compris ce qui se passe au niveau national et puis des accords locaux autour des municipalités. Dans le cas d'Istres, très franchement, l'origine du problème, il est interne au Parti Socialiste. Il est interne au Parti Socialiste, alors ils ont beau exclure ceux qui sont sur une liste dissidente, etc. De toute façon, on voit bien le résultat du premier tour, puisque 76%, j'allais dire, des électrices et des électeurs, enfin ceux en tout cas qui ont voté, se sont portés sur deux listes.
On a l'impression que ça ne vous déplaît pas quand même de voir le Parti Socialiste se démener dans cette bouillabaisse istréenne.
C'est leur pratique qui conduit aussi à ce type de résultat. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait ? D'ailleurs, ils étaient très dubitatifs sur notre capacité à monter une liste de rassemblement avec des communistes, 19 et 20 qui n'étaient pas communistes. Et donc, ils étaient très dubitatifs sur notre capacité. Nous avons monté une liste qui a, somme toute, enregistré un score honorable, 6,36. Vous allez dire, c'est très faible. Ce n'est pas le score du Parti communiste, c'est le score de cette liste. Je dis... Quand je regarde 3 semaines de campagne et quand je regarde ce que m'ont dit des journalistes dimanche soir au sort du premier tour, vous savez, M. Coppola, quand on téléphone à la préfecture, il ne nous donne pas votre liste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bénéficié de toute la promotion nécessaire. Je dis, c'est un bon début. Mmh. Voilà. Mais ce n'est pas un principe pour c'est
pas un principe. Jean-Marc Coppola, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission.
Alors, ce n'est pas un principe sur les municipalités, c'est-à-dire que ça ne présage pas, j'allais dire, d'un cavalier seul du Parti communiste dans les
municipaux. Et concrètement, pour en revenir à Istres, vous appelez au report des voix sur le candidat socialiste ?
Non. Nous n'appelons à rien du tout. Les électrices et les électeurs se prononceront en fonction de tout cela et nous n'appelons ni pour une liste ni pour une autre liste.
Vous savez que Jeanne Caselli vous a dit a déclaré que les communistes prendraient leurs responsabilités s'ils n'appelaient pas à
oui,
voter justement pour
nous les assumons liste. Nous les assumons, mais en matière de clarté politique et de transparence, eh ben franchement ça, ce qui s'est passé ne nous incite pas à le faire puisque l'UDF appelle à voter à la liste conduite par Michel Kaya. Donc ça, en termes de clarté politique, ça n'en donne pas de clarté politique. Et vous voulez pas qu'on
en termes de clarté politique, tout le monde se souvient quand même qu'en 2002 aux législatives, il y avait eu un immense rassemblement autour du député Dutoit. Il y avait eu la gauche, les socialistes.
Oui, il y avait surtout à l'origine, oui. Puisque nous étions à l'initiative de ça, quatre retraits dans les circonscriptions qui craignaient où il y avait le Front National, 4 retraits justement de nos candidats.
Et vous nous les montrez avec vos doigts. Hein. Il n'en manquait pas.
Et c'est cela qui a conduit à la position qu'a ensuite prise le Parti
Socialiste. Alors justement, tout à l'heure, Michel Guéraud, vous interrogez un petit peu, vous rappelez que vous aviez beaucoup d'élus, j'imagine que vous le saviez déjà. Aujourd'hui, quelle est la singularité ? Est-ce qu'on fait du communisme de la même manière quand on est au Rove, petite commune communiste, que quand on est à Aubagne ou même à Marseille ? Est-ce que c'est le même communisme ? Vous qui êtes premier secrétaire fédéral, vous parlez d'une même voix à tout le monde ou on vous écoute de la même où on vous comprend de la même manière ?
Moi, je pense d'abord qu'il faut saluer pas seulement nos maires communistes, mais l'ensemble des maires, parce que je pense que c'est ceux qui sont le plus, j'allais dire, en contact avec les populations, avec leurs problèmes, leurs préoccupations. Et je pense que quand il y a des caricatures sur les critiques des politiques, etc., c'est faire fi, justement, des 500 000 élus, souvent bénévoles, et dans une commune, on sait ce que ça signifie, et qui se décarcassent justement pour l'intérêt de leur population. Et là, de ce point de vue, il n'y a pas de différence. Par contre, je pense effectivement, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on travaille à cela, ce qui a conduit, j'allais dire, entre guillemets, au communisme municipal, parce qu'il y avait beaucoup, j'allais dire, de structures sociales, etc., dans les années 60, etc. Aujourd'hui, il y a d'abord de tels besoins que ça demande aussi des moyens colossaux, que l'on pas forcément d'ailleurs les maires, mais qui a besoin de régénérer effectivement ce que signifierait un communisme municipal avec des structures nouvelles, avec une vie
qui s'appuierait sur quoi, puisqu'on sait que maintenant les ouvriers...
D'abord la démocratie participative, ça c'est essentiel, la participation des citoyens, ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, quand on voit que des maires restent depuis très longtemps comme ça en gestion, je pense que c'est ce rapport à la population qui est
le syndicalisme n'est plus la courroie naturelle qui a mené...
il a certainement été une époque. Moi, je ne l'ai jamais connu, ça c'est clair, net et précis, parce que j'ai toujours été très jaloux de l'indépendance des deux organisations syndicales et politiques à laquelle j'avais adhéré.
Franchement, ce communisme municipal là, que vous évoquiez, il est quand même en danger, en difficulté.
Le monde a changé, vous savez.
Il y a des bastions, objectivement. Non, mais même si on regarde la carte de la France, enfin, oui. Les Bouches-du-Rhône sont un petit peu le village des Gaulois assiégés. Enfin, le communisme municipal en France ne se porte plus aussi bien qu'auparavant. La Ciotat...
La bataille idéologique est intense et forte, et d'ailleurs elle nous traverse aussi. La bataille, quand je dis la bataille idéologique, c'est la bataille, j'allais dire, pas seulement anticommuniste, je veux pas jouer les victimes ici, mais la bataille de renoncement à toute opposition au capitalisme. C'est ça la bataille idéologique fondamentale. La pédagogie du renoncement a fait des dégâts. D'ailleurs, le non victorieux au référendum a montré qu'on pouvait ouvrir une brèche justement à cette pédagogie du renoncement. Mais comme je le dis toujours, vous savez, on ne gouverne pas, on ne gère pas un pays comme la France quand le Parti communiste est à 20% et quand le Parti communiste est à 3%. Et aujourd'hui, on en a la réalité. S'il y a des reculs sociaux considérables, s'il y a des injustices et des inégalités, et bien, il y en a qui peuvent se réjouir effectivement d'un Parti communiste à 3%, mais je pense que la masse et la majorité de notre peuple devraient au contraire s'en inquiéter.
Oui, mais là, vous revenez sur des problématiques nationales. Est-ce que la Ciotat, par exemple, est regagnable par le PC? Est-ce que des villes qui ne sont pas des bastions communistes pourraient le devenir? Est-ce que ce discours national, voire international, peut toucher des électeurs? Enfin, est-ce que vous avez des ambitions?
Je pense qu'effectivement, ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuons de faire, mais depuis le référendum, ce travail avec les citoyennes et les citoyens, le rassemblement qui parle de rassemblement autour des communistes, autour du Parti communiste, montre effectivement que nous avons effectivement la possibilité, j'allais dire, d'une autre façon. Vous parliez de bastions, il faudra arrêter avec ces bastions. D'avoir des communistes qui sont en charge de responsabilité et d'avoir un parti qui soit plus influent, effectivement, et ça se traduit
concrètement, dans les urnes. Quelles sont les villes que vous pensez pouvoir soit reprendre, soit gagner?
D'abord, il y a la présidentielle, parce que dans l'ordre chronologique des choses, il y a cela. Et puis des législatives. Et au niveau des législatives, nous avons quelques ambitions sur un certain nombre de circonscriptions. La circonscription de Gardanne ou la circonscription d'Aubagne.
Et dans les villes,
vous savez, dans les villes, on peut regarder encore de certaines villes. Bon, vous parliez effectivement de la Ciotat, la Ciotat qui pourrait être une de nos ambitions. Mais je voudrais dire au passage, vous avez cité tout à l'heure 13 communes, que nous gérons, avec une majorité de gauche, mais ce sont des maires communistes, nous gérons les 7 plus grandes villes du département, après Marseille et Aix-en-Provence, qui sont gérées par la droite. Et ça, on l'oublie, donc ça montre aussi notre implantation. Alors on peut toujours avoir des ambitions, effectivement, d'en conquérir d'autres, mais ce n'est pas conquérir pour le Parti communiste. Je répète, ce n'est pas un rassemblement autour de nous, mais c'est souvent une façon de pratiquer la politique et des contenus qui sont différents. Vous n'avez qu'à regarder effectivement une gestion d'une commune par la droite et une gestion d'une commune par les communistes, c'est différent.
Est-ce que c'est encore des communistes selon la liturgie communiste? Vous faites référence, j'imagine, à Arles. Monsieur Scavetti, on peut dire que c'est un communiste?
Oui,
comme vous l'entendez.
Il est adhérent du Parti communiste, il est communiste, il fait partie de la direction de la fédération, et bien sûr. Mais alors chacun avec son caractère. Vous savez, ce n'est pas un bloc monolithique où tout le monde serait moulé dans... J'allais dire, vous en citiez tout à l'heure un certain nombre d'exemples. Et puis Arles, dans chaque commune, a son histoire, a son contexte très particulier aussi.
Mais c'est aussi des communes, des circonscriptions où vous gagnez, où vous avez gagné, avec des accords, on en revient toujours à cette question, avec le Parti socialiste, avec la gauche plurielle. Est-ce que sans ces accords, avec cette indépendance, avec des listes de rassemblement que vous prenez, est-ce qu'il y a encore des possibilités. Hein.
Oui, nous souhaitons l'union et l'union la plus large possible. L'union la plus large possible, ça veut dire avec des gens de gauche, qui soient socialistes, qui soient verts, qui soient radicaux. L'essentiel, c'est d'être clair pour la population, pour les citoyens et les citoyennes, surtout pour les électrices et les électeurs, clair que ce soit sur des contenus, qui soient des contenus de gauche et qui soient des contenus là, partagés
les... candidatures à ce moment-là.
Et les candidatures seront, seront discutées avec aussi tout ce beau monde.
C'est pas une attitude un peu schizophrénique, avec ce que vous venez de dire sur Ségolène Royal.
J'ai l'air d'un schizophrène.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une déchirure, un tiraillement entre ces critiques très, très virulentes que vous faites par rapport au Parti Socialiste, par rapport à l'expérience de la gauche plurielle, et puis ces accords et cette gouvernance locale.
Mais on ne peut pas dire démocratie et puis dire pousse, les citoyens n'ont pas voix au chapitre des débats. Aujourd'hui, que disent les gens d'abord sur la critique de la politique? C'est que souvent ils sont hors jeu de la politique et nous voulons remettre dans les mains des hommes et des femmes la politique dans le sens noble du terme. Vous savez, il n'y a que ça qui m'anime, il n'y a pas de conquête de pouvoir. Je veux dire, vous citiez les titres tout à l'heure, je gagne 30% de moins avec mes indemnités que si je conduisais les trains, très franchement. Donc c'est vraiment pour l'intérêt général qu'on se déploie. C'est pour justement participer au débat démocratique. Moi je dis toujours, le CAC 40, lui, n'a pas besoin de démocratie. Et plus les hommes et les femmes se mêleront de politique dans le sens noble du terme, pas les piteuses images qu'on peut voir parfois de la politique, des chamailleries, etc. Les gens, ils veulent de l'union, ils veulent du tous ensemble, mais sur des contenus qui soient clairs et élaboré avec eux, c'est ça.
Même peut-être sur Marseille, quand même, la capitale régionale, votre message n'a pas l'air d'être extrêmement audible vis-à-vis des électeurs. Les communistes sont condamnés à jouer un second rôle, toujours, à Marseille ?
À Marseille, mais on peut avoir de belles ambitions pour Marseille.
Alors, chiffrez-moi, dites-moi, qu'est-ce que vous annoncez ?
Ah, ben d'abord que la gauche puisse, effectivement, à Marseille, en 2008...
Non, mais c'est quand même très symptomatique, vous ne dites jamais le Parti communiste, c'est toujours la gauche, incluant ou sous-entendu Parti socialiste.
Mais parce que je suis réaliste et que je n'ai pas de volonté hégémonique, c'est pas cette question, elle n'est pas là. Je pense qu'il y a une majorité d'hommes et de femmes qui peuvent se retrouver sur des contenus de gauche pour que cette ville soit débarrassée de Godin et de la droite.
C'est la gauche plurielle.
Il n'y a qu'à voir, mais vous l'appellerez comme vous voudrez, mais des gauches avec une gauche sur des valeurs claires, sur un programme clair, où les citoyennes et citoyens on voit au chapitre.
Jean-Marc Coppola, aujourd'hui...
Mais ça pourrait faire l'objet de toute une émission, Marseille.
Oui, justement. Jean-Marc Coppola, aujourd'hui, vos ennemis, c'est qui? Vos adversaires, en tout cas, les plus virulents, c'est la droite ou c'est la gauche socialiste et altermondialiste?
C'est clair, la droite et l'extrême droite.
Bon, et alors il va se passer quoi ce week-end? Donc est-ce qu'il va y avoir vraiment un candidat qui va ressortir déjà ou est-ce qu'on remet ça un petit peu plus loin en attendant que les passions se calment?
Si ça ne se fait pas, quelle est l'attitude du Parti communiste?
Mais nous resterons très constructifs et très rassembleurs. Et c'est ce qui nous anime parce que...
Pas de sacrifice.
Parce que, écoutez, ce n'est pas une question de sacrifice. L'enjeu, ce n'est pas de sacrifier un tel ou un tel. L'enjeu, il est qu'on a une chance historique en 2007. Historique. Et ça, moi, je ne veux pas la repousser en 2010 ou en 2012. Historique qu'une gauche antilibérale puisse marquer des points et puisse changer la donne, changer la vie. C'est ça notre ambition. Et nous avons cette possibilité-là aux élections.
Il n'y a pas une ambition quand même pour le Parti communiste de garder des élus, de garder... Non, vais finir ma question parce qu'on sait que le Parti communiste est quand même dans une certaine difficulté financière. Il y a des bruits qui courent sur la vente du colonel Fabien, donc de son siège national. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un intérêt à garder une réelle force politique à rassembler autour sous le nom du PCF pour garder cette histoire un certain nombre de durées.
Les choses ne sont pas binaires, ce n'est pas 0 ou 1 ou tout blanc ou tout noir. Je ne vais pas, en réponse à votre question, dire non, les élus, on s'en fiche. Les élus, avant tout, les élus, c'est aussi la vitrine, bien entendu, du parti, mais c'est une façon de pratiquer la politique. Ils sont utiles là où ils sont, dans les communes, dans les départements, dans les régions et même à l'Assemblée nationale. Ils sont élus. Et on a besoin d'élus, justement, dans la démocratie. La démocratie, participative, puis la démocratie représentative. Il faut revoir justement les pouvoirs de ces élus. Et quand on voit par exemple le président de la République qui a trop de pouvoir, ça c'est évident. Mais ils sont importants les élus, et pas simplement pour les indemnités. Vous savez, c'est pas que les seules ressources du Parti communiste, il y a les cotisations et il y a la souscription. Mais nous ne sommes pas omnubilés à chercher à garder les élus, à avoir toujours plus d'élus, et donc à sacrifier nos valeurs et être incohérents au nom de cela. l'État. Nous ne cherchons pas à sacrifier, mais à avoir toujours plus d'élus. Nous ne cherchons pas non plus
donc,
à les sacrifier.
Si un autre c'est candidat
utile.
Sort...
Je suis utile avec d'autres, justement, pour restituer le pouvoir.
Jean-Marc Coppola, très très vite, oui ou non, Annick Bouette, vous discutez encore avec elle?
Bien sûr.
Voilà, donc c'était Jean-Marc Coppola du Parti communiste. C'était le rendez-vous de la Tchatch avec le mensuel régional et satirique Le Ravi dans tous les kiosques, également sur internet leravi.org. Prochain rendez-vous, ce sera le 13 janvier avec l'UDF qui sera à l'honneur à demeure sur Radio Grenouille avec Jacques Rocasséra.